heures du soir. B5 avança dans l'obscurité. La savane était vide, comme si la proximité des humains tenait les animaux à distance. Ses pas étaient furtifs dans la poussière, aussi silencieux que ceux d'un fauve à l'approche. Le chasseur repéra une girafe au loin, assoupie sans doute, et poursuivit sa marche. Il distinguait un kraal sur sa droite, à 500 mètres environ, et le lodge dont les lumières illuminaient la terrasse. Tout le monde semblait dormir dans le staff camp. Il posa un genou à terre et épaula son arme pour observer les lieux. La brise nocturne était tiède, aucun mouvement dans sa lunette infrarouge. La table était pourtant debout puisque les lampes éclairaient la maison. Il était encore tôt et il aimait traîner le soir sur la terrasse, d'après les infos du chinois. Une cible facile. B5 se redressa et son fusil à l'épaule balaya l'espace qui s'offrait à lui. 500 mètres. Impossible de rater la TAM à cette distance. Il suffirait d'attendre qu'il entre dans son champ pour fixer le petit point rouge sur sa poitrine. Une mort sans douleur dont il ne se rendrait même pas compte, inconscient du danger. Dommage. B5 fut cependant pris d'une vague appréhension. Son casque militaire l'empêchait de bien entendre, mais il crut détecter un bruit étouffé sur sa droite. 3 secondes lui suffisaient pour atteindre les 90 km/h, et la trachée d'un homme valait celle d'une gazelle. Le chasseur n'eut pas le temps d'épauler son arme, ni même de repérer l'ennemi. Lancé comme une bombe, le guépard le propulsa à terre, lui sauta à la gorge dans un bref nuage de poussière et ne la lâcha plus. Chapitre 12. L'activité était intense autour du ponton. Les prisonniers se tenaient assis dans un coin du hangar, attachés et une cagoule sur la tête. Les bêtes stressées faisaient un boucan du diable dans leur cage pendant que le chef de l'organisation donnait des ordres. Même si les transferts étaient balisés, il faudrait doubler les doses de calmant pour les fauves qui risquaient de trahir les routiers en cas de contrôle inopiné. Ils seraient ensuite expédiés par bateau aux 4 coins du monde. En attendant, les porteurs faisaient la navette du hangar où les cages s'amoncelaient jusqu'au camion garé un peu plus loin sur le sentier. La garde rapprochée du Scorpion s'était regroupée dans la maison coloniale décrépite qui faisait face à l'entrepôt, une 12aine d'hommes comptant d'en finir avec cette opération de longue haleine. Duplessis se réfugia dans la chambre du haut où il avait posé ses affaires personnelles. Ses gardes du corps Afrikaners supervisaient le chargement des camions, des dizaines de cages s'entassaient sous les bâches, commandes de clients moins importants que M. Zeng, mais qui complétaient les prélèvements effectués dans les réserves de la CASA. Tout allait pour le mieux. Le colonel Betoisé avait reçu les dernières instructions, le lieu et l'heure du rendez-vous près de l'ancien pont, mais le chef des rangers se fourrait le doigt dans l'œil s'il s'imaginait récupérer sa femme saine et sauve. L'échange aurait bien lieu, mais elle et son équipier auraient droit à une petite piqûre. La même que celle infligée à l'infortuné Virenao, qui leur laisserait à peine 30 minutes de vie avant que leur cœur s'arrête. Impossible de dormir avant une telle opération. Rainer Duplessis profita du premier moment de répit de la journée pour s'allonger sur sa couche. La chambre qu'il partageait normalement avec Yost était rustique, les deux hommes n'y restaient jamais longtemps. Mais le lit vide lui rappelait la disparition de son neveu, à coup sûr tué par ce chien de caporal. Qu'il grille en enfer. Enfin, il entendit du remue-ménage en bas de l'habitation. Otto et Peter étaient prêts à prendre les airs. C'était la première phase de l'opération. 40 minutes de vol leur suffiraient pour atteindre l'aérodrome de Quito Cuenavale, où ils récupéreraient la mallette avec les $100 000 de cash avant de les rejoindre au point de rendez-vous. Le Scorpion descendit au rez-de-chaussée de la grande maison et fila vers l'entrepôt pendant que le pilote vérifiait ses instruments de vol. Il y eut un attroupement à l'entrée du hangar et des voix qui montaient dans la nuit. Les heures étaient passées, il faisait de plus en plus noir sous la cagoule et Solana étouffait. Seth n'était pas loin, prisonnier comme elle. Le geôlier lui avait juste dit de fermer sa gueule quand il lui avait demandé de l'eau. L'odeur des bêtes était prégnante, leurs bruits incessants comme celui des grenouilles au dehors. La ranger se maudissait pour la 30e fois. Elle n'aurait jamais dû embarquer son équipier dans cette affaire. Il aurait dû attendre Ekanjo et ses hommes pour inspecter l'entrepôt de Rundo. C'était trop tard. Le plus urgent était de se débarrasser de la cagoule qui l'empêchait de respirer. Et pourquoi pas d'attirer leur